Aujourd'hui, nous abordons la fin. On verra si nous terminons complètement ou pas. De 1 Thessaloniciens au chapitre 5. Et on peut reprendre à partir du verset 11. On va lire ensemble. C'est page 233 dans la Bible à la colombe, à la fin de votre Bible, si vous avez emprunté une Bible. Je vous rappelle que l'apôtre Paul s'adresse à des chrétiens de la ville de Thessalonique, une ville où il a démarré, implanté une église, en étant sur place que quelques semaines. On pense qu'il était là que pour 3 sabbats, donc peut-être 4 ou un peu plus, peut-être s'il n'était pas dans les synagogues pour certains de ces sabbats, mais un temps relativement court. Et il a enseigné beaucoup de choses à ces nouveaux chrétiens. Et là, il leur rappelle des choses essentielles. Il les exhorte plutôt à marcher dans la sainteté, à ne pas avoir une fausse conception du retour du Seigneur et de l'enlèvement de l'Église. Il a des sujets qui d'habitude sont évités dans beaucoup d'Églises parce qu'ils portent à controverse. Paul n'hésitait pas, au contraire, à les éclairer. Il ne voulait pas qu'ils soient dans l'ignorance à ces sujets. Et il les invitait, au début du chapitre 5, à marcher bien réveillés. Parce que ce retour du Seigneur peut arriver à n'importe quel moment. Il leur rappelle que nous ne sommes pas destinés à la colère, ce qui pour moi est un des versets forts qui me convainc de l'enlèvement de l'Église avant la période de la grande tribulation. Mais là, on va voir qu'il va parler de choses très basiques sur la vie de l'Église. On va lire donc à partir du verset 11. « Ainsi donc, exhortez-vous mutuellement et édifiez-vous l'un l'autre comme vous le faites déjà. Nous vous demandons, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Ayez pour eux la plus haute estime avec amour à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous y exhortons, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. En toutes circonstances, rendez grâce, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous du mal sous toutes ses formes. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Frères, priez pour nous. Saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Paul recommande à l'Église de Thessalonique, et à travers elle, il s'adresse aux croyants d'aujourd'hui, à l'église Calvary-Chapelle de Nice, à l'église baptiste de Nice, à l'église pentecôtiste de Nice. Il nous donne des conseils, il nous donne des exhortations, et ce qui est merveilleux, c'est la permanence de leur pertinence. Le fait que c'est toujours valable, que que c'est pas quelque chose qui date de trop longtemps pour être obéi. Je pensais ce matin, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans l'église on a un tube en ce moment, un chant qu'on aime bien, et ce chant n'a pas été écrit l'an dernier ni l'année d'avant. Il a été écrit en 1680. Loué soit Dieu. Vous avez remarqué qu'on peut chanter avec tout autant d'actualité ce chant qu'il y a 330 ans. Si les gens vous demandent qu'est-ce que vous avez fait dimanche, cette semaine qui vient, dites-leur, tiens, dimanche matin, j'ai chanté un tube qui est vieux de 330 ans. Sans doute, ils vont vous demander ce que c'était, vous pouvez leur chanter ou leur donner les paroles. Loué soit Dieu. Tout ça pour dire que ce n'est pas parce que c'est vieux que c'est désuet et qu'on peut mettre de côté. On a beaucoup de plaisir et de fruits à étudier toute la parole, toute la Bible, même l'Ancien Testament, qui est, pour certaines parties a été écrit il y a plus de 1500 ans, même beaucoup plus longtemps, mais la vérité, elle n'a pas d'âge. Et on se réjouit justement, on a une façon de procéder dans le mouvement Calvary où on prend la Bible, on commence à la Genèse et on étudie verset par verset, livre par livre, jusqu'à l'Apocalypse. Et quand on a fini l'Apocalypse, on revient à la Genèse. Avec cette façon de procéder, on ne campe pas sur des sujets favoris. Dieu merci. Et pourtant, il y a des églises où c'est chaque semaine, c'est le pasteur qui se décide, qui prie sans doute, mais qui finalement couvre un certain nombre limité de sujets. Et il y a dans certaines églises, on est au top pour certains sujets. On connaît tous les dons de l'esprit. Mais on ne sait peut-être pas ce qu'il en est de la sainteté. Dans d'autres, ça va être l'inverse. On va parler que de sainteté, mais on va occulter l'Esprit Saint qui devrait être la source de cette sainteté. Dans certaines églises, le pasteur ne va pas dire « Vous devez me respecter ». Je dois dire que c'est pas facile de lire verset 12. « Ayez pour moi la plus haute estime, avec amour à cause de mon œuvre. » Mais parce que je lis toute la parole, verset par verset, dimanche après dimanche, vous l'entendez, et je crois que c'est une bonne chose. Pas pour ma gloriole personnelle, pas parce que je le mérite, mais parce que c'est Dieu, par son Esprit Saint, qui nous donne le mode d'emploi, la façon de fonctionner. Exhortez-vous mutuellement les uns les autres. Ça veut dire s'encourager. Le mot encourager vient du latin et veut dire donner du courage, donner de la force à l'autre. Édifiez-vous l'un l'autre. Ça veut dire construisez-vous les uns les autres. Et on avait remarqué que Paul était très, très encourageant dans le sens qu'il disait « Vous le faites déjà, mais continuez, allez plus loin encore en vous exhortant et en bâtissant votre vie chrétienne les uns les autres. » Et donc, il nous parle d'abord de comment on doit traiter ceux qui sont responsables dans l'Église. Il y a un terme qui est utilisé, un des mots clés dans ce passage que nous avons lu, c'est le mot frère. Frère, c'est frère ou sœur, c'est l'idée que si nous sommes chrétiens, nous sommes dans une famille. Si nous sommes dans une église, nous appartenons à une famille. Et pour qu'une famille fonctionne, et c'est pour ça que c'est difficile lorsque le papa est absent, il faut qu'il y ait une autorité S'il y a le papa et la maman, l'autorité, elle revient au père. Si le père n'est pas là, bien sûr, c'est la maman qui doit assurer cette autorité. Mais pour qu'une famille fonctionne, il faut qu'il y ait l'autorité d'une personne, l'autorité d'un père. Dans les foires ou dans les musées, on attire des fois les gens en leur montrant des bêtes à deux têtes, des monstres. Un veau qui, par exemple, est né avec deux têtes. Et généralement, ces bêtes ne peuvent pas vivre très longtemps. S'il y a deux têtes, l'animal ou l'être ne va pas survivre. Il en est de même dans l'Église. Jésus est le chef. Il est le grand berger. Après, il y a différentes façons de voir la gouvernance d'une Église. Il y a des systèmes où il y a des anciens. On appelle cela les églises de frères. Mais souvent, dans ces églises de frères, il y a souvent un frère qui est au-dessus des autres. Par son expérience, par sa façon d'annoncer la parole, nous sommes dans un système où il y a un pasteur et des pasteurs adjoints ou des gens qui l'entourent. Et la clé de ces deux systèmes ou toute autre combinaison, c'est de savoir si c'est vraiment Jésus qui est à la tête. Et un système où il y a un pasteur et des assistants, ou un système où il y a des pasteurs égaux entre eux, des frères qui dirigent, tout dépend de la place qui est donnée à Jésus. Parce qu'il suffit que le pasteur, si on est dans un système comme le nôtre, ou les frères, si on est dans un système de responsabilité partagée, il suffit d'une personne qui marche dans la chair et non dans l'esprit pour que ce soit la catastrophe. Et on parlait il n'y a pas longtemps avec des amis qui nous disaient que il y a des problèmes dans les églises de frères, et je peux vous garantir qu'il y a des problèmes dans les églises où il n'y a qu'un pasteur, un ancien qui supervise les autres. On a des raisons de préférer un système ou l'autre. Le danger, c'est de reproduire un système humain dans la gouvernance de l'Église. Un système où on décide par vote. Et ça, je vois ça nulle part dans la Bible. Dieu donne des dons et il appelle certains à exercer des fonctions de responsabilité dans différents domaines. On ne va pas s'y tourner, mais par exemple dans Éphésiens 4, verset 11, il y a une spécificité des rôles et des dons qui doit être respectée. Mais Paul parle non seulement des pasteurs, des responsables, des anciens dans l'Église, mais de tous ceux qui exercent une autorité, que ce soit par exemple ceux qui enseignent les enfants dans l'école de dimanche, ceux qui s'occupent d'autres groupes. Si vous avez la responsabilité d'un groupe de maison, si vous prodiguez un enseignement spirituel, si vous êtes en position de responsabilité devant certaines personnes, ces personnes doivent avoir de la considération pour vous. Si vous n'avez pas de considération pour les personnes qui sont responsables devant vous, au-dessus de vous, la solution, c'est d'essayer de réformer le système. C'est souvent la tentation. La solution consiste à aller voir ailleurs si vous trouvez un système qui vous convient mieux. Vous êtes libre de chercher quelqu'un que vous allez pouvoir respecter. C'est un peu comme dans le mariage. Avant de se marier, Une jeune fille doit chercher quelqu'un qu'elle n'aura pas de mal à respecter. Si vous prenez votre futur fiancé pour un imbécile, ne soyez pas surprise si le mariage n'est pas facile à vivre. Mais si vous êtes chrétien, à ce moment-là, il sera trop tard. Vous devez prier pour trouver l'église où vous allez vous sentir bien, dans le sens où vous allez pouvoir respecter ceux qui exercent une autorité. Un groupe de maison, un groupe de prière, là aussi, priez pour trouver des responsables que vous allez respecter. Alors, Paul précise sa pensée en disant que vous n'allez pas respecter ces responsables parce qu'ils ont une autorité formelle, parce que quelqu'un a le titre de pasteur ou quelqu'un a le titre... Ce n'est pas le titre qui compte, c'est ce que la personne fait dans cette position. Tout d'abord, ça doit être des gens qui travaillent parmi vous. Si votre pasteur ne fait rien de toute ta semaine, qu'il se pointe simplement le dimanche matin pour parler pendant une demi-heure ou trois quarts d'heure, il n'est pas digne de votre considération. Souvent, les gens dans l'assemblée n'ont pas une idée très précise de ce qu'un pasteur fait le reste de la semaine. En fait, c'est pas du 35 heures, je vous le garantis. C'est un peu, c'est une mauvaise image, mais c'est un peu comme vous devez gérer une entreprise que vous commencez vous-même. Il y a le travail administratif, il y a la représentation, il y a, j'allais dire, la publicité, il y a la communication, il y a l'entretien des locaux, il y a la motivation du personnel, la motivation des gens. C'est une vocation, un appel formidable. Mais sachez que ce n'est pas un appel pour les feignants. Ne dites pas, tiens, j'aimerais bien être comme Pierre, pouvoir parler pendant une demi-heure, déblatérer, raconter ma vie pendant un moment. Non, l'idée, c'est vous devez être prêt à travailler, pas pour votre gloire, pas pour la réussite de votre œuvre, mais pour le Seigneur. Travaillez, donnez le meilleur de vous-même pour l'œuvre du Seigneur. Et ça, ce n'est pas seulement une qualification du pasteur. Si vous êtes responsable de la louange, responsable d'un groupe de prière, responsable de l'école du dimanche, responsable d'une classe de l'école du dimanche, même une fois par mois, vous devez donner le meilleur de vous-même. Sachant que le meilleur de vous-même est encore loin de ce qu'il faut. Mais si vous vous dites « Oh, c'est pas grave, il y aura quelqu'un pour ouvrir la classe de l'école du dimanche », je suis fatigué ce matin, je vais me reposer un peu plus longtemps. Ce n'est pas ce que le Seigneur attend de vous. Donnez le meilleur de vous-même, surtout si vous exercez une position de responsabilité. Ils doivent non seulement travailler, ils doivent diriger dans le Seigneur. Diriger, c'est une position qui doit se manifester par des actions. Et ce n'est pas d'être un tyran, de dire « il faut faire comme ça et pas autrement ». Il faut le faire dans le Seigneur, c'est-à-dire à la façon du Seigneur, en ayant cherché la volonté du Seigneur, en le faisant au nom du Seigneur, diriger les autres. Comme un berger dirige un troupeau. Et dans notre époque, un mot qui déclenche tout de suite une montée d'adrénaline, une montée de la tension sanguine, c'est le mot soumission. Ah ! Soumis ! Non, ni soumise. on veut bien tout faire, mais surtout pas être soumis à quiconque. Vous êtes pour la plupart trop jeunes pour avoir connu mai 68, mais j'étais étudiant en mai 68, et je vous garantis que s'il y avait une chose dont on voulait plus, c'était être soumis. Être soumis aux professeurs, être soumis aux autorités. C'était un gros mot, le mot de soumission. Mais c'est un mot biblique. C'est un mot qui fait que les choses, les institutions peuvent fonctionner. Dans l'armée, c'est le même mot qui était utilisé pour dire que les soldats doivent être soumis aux officiers. C'est pas parce que l'officier est un homme plus intelligent, un homme qui a de plus de qualité morale, un homme qui vaut plus qu'un soldat, mais dans les circonstances où les gens sont réunis en une armée, si les soldats ne se soumettent pas aux officiers, les officiers à leur officier supérieur, c'est la pagaille, c'est la zizanie. Et ces personnes responsables, non seulement elles travaillent dur, elles travaillent de leur mieux, non seulement elles vont vous diriger, elles vont vous dire ce qu'elles pensent être bien, elles vont vous demander de le faire, elles vont vous avertir. Le mot avertir, ça veut dire vous reprendre avec douceur. Un commentateur disait que ça doit être un peu comme le ton doit être fraternel, ça doit être le ton d'un frère. Mais ça doit être le ton d'un grand frère qui dit au plus jeune frère, non, ça va pas ce que tu fais, tu dois pas faire cela. Et la construction grammaticale montre que ceux qui vous dirigent, ceux qui travaillent, ceux pour lesquels vous devez avoir de la considération, ils doivent faire ces trois choses à la fois. Ils doivent travailler dur, ils doivent vous mener, ils doivent vous montrer la voie. Et ils doivent vous reprendre lorsque vous écartez des voies du Seigneur. Et vous devez avoir pour ces gens, pour le pasteur, mais aussi pour tous les responsables de ministère, non seulement une estime, mais la plus haute estime possible. Non seulement la plus haute estime possible, mais ça doit être teinté, rempli d'amour. Et cela non pas parce qu'ils ont eu le titre ou ils étaient là avant vous, mais parce qu'ils font une œuvre qui va bâtir l'Église. Et tout de suite après, il dit « Soyez en paix entre vous ». Et on peut penser que c'est soit la... Je crois que les deux sont vrais. C'est la conséquence du respect que l'on a pour les autorités dans l'Église. Mais c'est aussi un fruit... Donc c'est un fruit de cette estime que l'on a. Mais c'est aussi une façon de montrer cette estime au pasteur, c'est d'être en paix entre vous. Il n'y a pas de chose plus terrible qu'une division dans l'Église. Je me souviens, lorsque nous étions enfants, on demandait la veille de la fête des mères, « Maman, qu'est-ce que tu voudrais ?» Et on avait cassé la tirelire. Des fois, on lui demandait de l'argent pour nous aider à acheter le cadeau qu'elle voulait. Mais souvent, elle nous disait, « J'ai pas besoin de cadeau. Mon plus beau cadeau, c'est que vous vous aimiez les uns les autres, que vous disputiez pas, que vous, sous-entendu, que vous arrêtiez de vous chamailler. » Je vois des parents qui sourient et qui font donnent des coups de coude à leurs enfants. Il n'y a rien de plus beau que l'unité, la paix. Et ça arrive, bien sûr, on est tous des êtres humains, pécheurs, qu'il y ait des divisions, des disputes dans l'Église. Et la première chose, c'est d'essayer de régler le problème entre vous. Des fois, c'est souvent un manque de compréhension, c'est une mauvaise communication. On va penser que l'autre a voulu dire quelque chose de mauvais, alors qu'en fait, ce n'était pas son intention. Ça peut être révélateur d'un problème latent, mais essayez de vous expliquer entre vous. Priez avant de parler. Cherchez à faire la volonté du Seigneur. Il y a des fois où la dispute est telle que peut-être vous vous sentez appelé à m'en parler. Et généralement, ce que je vous dis, c'est essayez de régler le problème. Si vous n'y arrivez pas, venez ensemble me voir et on va prier et on va écouter l'un et l'autre et on va voir si le Seigneur ne peut pas nous montrer qu'en fait ces divisions, ces disputes ne sont pas des choses qui ont été exagérées, qui ont été prises en dehors de toute proportion raisonnable pour essayer de ramener la paix. Soyez en paix entre vous. Une église qui se divise, une église qui se dispute, ça n'est pas une église. La première fois que j'ai dû servir comme pasteur, en fait, j'étais venu remplacer un pasteur à Nice dans une église qui était en pleine division. Et c'est vraiment terrible d'essayer d'encourager les gens à suivre le Seigneur lorsque vous savez qu'il y a des clans, lorsque les gens sont dans la chair. On a l'impression qu'on ne peut pas toucher le cœur des personnes. Et souvent, ces divisions d'église doivent suivre leur cours et faire beaucoup de mal à la cause de Christ. Les nouveaux croyants qui voient des anciens chrétiens se diviser, se disputer, remettent en cause leur propre foi, se disent « si c'est ça d'être chrétien, non merci ». Et nous avons une grande responsabilité en tant que chrétiens plus anciens dans la foi de ne pas donner une image qui repousse les gens en recherche ou les jeunes chrétiens. Et là aussi, c'est si vous avez des problèmes dans une église, venez les confier, venez parler au pasteur s'il y a des choses, mais n'essayez pas de réformer l'église. On ne peut pas changer l'eau d'une rivière en aval. C'est à l'amont que ça se passe. C'est à la source. La source, c'est Jésus-Christ. La seconde source, ça va être le pasteur qui est responsable devant Jésus-Christ et devant l'Esprit-Saint. Mais trop souvent, les gens disent « je ne suis pas d'accord et on va changer les choses ici ». Alors s'il y a des péchés évidents, s'il y a des choses graves qui se passent, si le pasteur est coupable de choses qui sont de toute évidence contraires à la volonté de Dieu, vous pouvez en référer aux autorités du pasteur. Parlez à d'autres pasteurs du même mouvement, au départ peut-être. Alors c'est vrai qu'ici, mon responsable, c'est le pasteur de Seattle. C'est loin, Seattle. Mais c'est pas loin, vous pouvez prendre le téléphone et certains connaissent mon pasteur. Vous pouvez dire, il y a Pierre, il est en train de faire des choses qui sont pas cochères, qui sont pas chrétiennes. Venez me parler. Vous connaissez d'autres pasteurs maintenant. Il y a Mike à Paris, il y a Daniel à Lyon. On n'est pas indépendant, on n'est pas une autorité, je ne suis pas une autorité à moi tout seul. Il y a des anciens dans l'Église, il y a des personnes qui ont une maturité chrétienne, vous pouvez leur parler, ils viendront me parler, mais n'essayez pas de dire « je vais montrer que j'ai raison » en prenant un groupe et en divisant l'Église. Et ça, c'est malheureusement... La multiplication des églises, c'est souvent parce que les gens ne veulent pas se soumettre à une autorité et disent « mais j'ai pas à respecter un tel, on va aller former une église ». Dieu s'y retrouve, mais ayez vraiment le sentiment d'une responsabilité très grave lorsque vous diviser l'Église ou lorsque vous essayez de changer les choses de façon non biblique. On a verset 14. « Nous vous y exhortons, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consoler ceux qui sont abattus, supporter les faibles, user de patience envers tous. Souvent, et vous l'avez peut-être fait inconsciemment, vous dites, ça c'est le travail du pasteur, d'avertir ceux qui vivent dans le désordre, de consoler ceux qui sont abattus, de supporter les faibles, d'user de patience envers tous. Mais regardez bien ce qui est dit. Nous vous y exhortons, frères. Chacun des chrétiens d'une assemblée, frère ou sœur, a cette responsabilité dans chaque église. Il y a des différents types de personnes. Il y a des personnes qui vont vivre dans le péché pendant un temps, on espère. Il y en a d'autres qui vont être abattus, ceux qui vont vivre démoralisés, ceux qui n'ont pas de joie. Il y en a d'autres qui sont faibles, on va y revenir, et il dit, vous devez être à l'écoute, vous devez encourager, reprendre, exhorter tous ces groupes de gens, mais envers tous, vous devez utiliser la patience. Le mot « avertir » ceux qui sont dans le désordre, encore une fois, « avertir », c'est reprendre, c'est corriger, c'est de donner le conseil d'un grand frère. Donc ça marche très bien avec les frères. Soyez des grands frères pour ceux qui sont autour de vous. Sœurs, soyez des grandes sœurs pour les plus jeunes dans la foi ou ceux qui vivent dans le désordre. Le mot cette expression de vivre dans le désordre, c'est le même mot qui est utilisé dans l'armée pour quelqu'un qui ne marchait pas au pas. Il y a toute une troupe qui marche en cadence, et puis il y a celui qui n'arrive pas à mettre un pied devant l'autre sans se tromper, ou qui le fait exprès, qui marche pendant que les autres défilent. Et ce qui est intéressant, c'est que dès qu'on voit quelqu'un comme ça, on peut voir 50 personnes qui marchent au pas. On ne va pas les remarquer, on va remarquer la personne qui ne marche pas au pas. Vous avez peut-être remarqué que tout le monde n'a pas nécessairement un bon rythme musical, et que lorsqu'on commence à frapper des mains, il y a toujours quelqu'un qui frappe des mains plus fort que tout le monde, mais qui est en décalage. Et c'est la première chose que vous allez remarquer. Un tel, elle le fait toujours, ou elle n'a pas d'oreille, qu'est-ce qu'elle fait ? Là, alors, c'est pas pour aller corriger tout de suite la personne. Non, ce qu'il nous faut, c'est quelqu'un qui puisse mener le rythme avec un instrument à percussion, qui puisse étouffer les qui sont en désordre. Mais là, c'est de dire, lorsqu'il y a quelqu'un qui vit dans le péché, qui ne suit pas, qui ne marche pas avec le Seigneur, allez reprendre cette personne, allez lui donner les conseils d'un grand frère. Et puis, il y a des gens qui sont abattus, qui sont... Le mot, en fait, c'est... Ils ont... un psyché oligo, ils ont une petite âme, ils sont facilement démoralisés pour des raisons liées à leur tempérament ou liées à des circonstances qui les écrasent. Et ces personnes, vous devez les consoler. Et le mot, c'est leur donner de la force, venir auprès d'eux pour les redresser. Et puis, il y a les faibles. Et les faibles, on sait dans le vocabulaire de Paul, c'est souvent ceux qui sont légalistes, ceux qui entendent la loi et qui s'efforcent de suivre la loi à la lettre sans comprendre son esprit. Et on doit venir auprès de ces personnes, les soutenir, les aider à grandir. souvent, j'ai des, quand on parle aux musulmans, ils veulent savoir quelles sont les règles à suivre. Parce qu'eux, ils ont les cinq piliers de la foi. Il y a l'aumône, il y a le pèlerinage, il y a le ramadan, il y a cinq piliers. Et ils savent, ils ont l'impression que s'ils font ces choses-là, ils sont tranquilles. Et des fois, ils ont entendu parler des 10 commandements, ils disent, c'est encore plus dur. Alors 10 fois, non, on leur dit, la vraie loi du chrétien, c'est aime Dieu et fais ce que veut. Si vous cherchez à aimer Dieu, vous allez grandir et on ne va pas être obligé de vous donner des listes de choses à faire. Bien qu'ici, quelque part, il y ait quelques règles, quelques commandements, quelques impératifs qui soient donnés, mais on sent que tout ça, c'est dans la liberté de l'esprit. C'est plus de comprendre que on doit marcher avec Jésus, on doit marcher avec le Seigneur. Et là, Paul donne quelques ordres pour que les personnes qui reçoivent ces enseignements puissent dire oui, il faut consoler ceux qui sont faibles, ceux qui sont abattus, supporter les faibles, user de patience envers tous. Ça, c'est une clé. Dans toutes les situations, quelles que soient les personnes qui nous entourent et leur état d'âme, leur démarche avec le Seigneur, leur ancienneté, entre guillemets, leur maturité est un meilleur mot avec le Seigneur, vous devez utiliser la patience. Utilisez la même patience avec eux que le Seigneur utilise avec moi. Verset 15, « Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Ne cherchez pas à vous venger. La rétribution appartient au Seigneur. Recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. » On va s'arrêter là. Pour aujourd'hui, la tendance dans notre nature humaine, c'est de répliquer, c'est de rendre le mal pour le mal. La loi du talion était donnée non pas pour un principe, mais comme une limitation, œil pour œil. Si quelqu'un vous prend un œil, n'allez pas lui crever les deux yeux, ce qui serait notre tendance naturelle. Si on me fait du mal, je ne vais pas prendre juste... Si on me vole mes affaires, je n'ai pas envie d'aller voler des affaires à la personne, je veux détruire l'autre personne. Recherchez toujours le bien. Recherchez ce qui est le mieux pour l'autre. Quelqu'un parmi nous a vécu un vol cette semaine. Et c'est très difficile à vivre. De penser que quelqu'un sciemment vous prend vos affaires et vous condamne non seulement à être privé de ressources, mais vous condamne à des démarches administratives incessantes et pénibles. Vous vole non seulement des ressources, mais vole votre temps. Et il y a un chanteur français que peut-être dont vous vous souvenez encore, Georges Brassens. Et on voit un vol, on dit qu'est-ce que le Seigneur peut retirer de positif de ça? Surtout quand on verra le verset suivant, « Soyez toujours joyeux. » Et ce chanteur, il y avait des cambrioleurs qui lui avaient volé toutes ses affaires dans sa villa, dans le midi, et notamment sa guitare. Et le résultat, c'est qu'il avait fait, il avait écrit une chanson pour ce voleur de guitare. Il lui avait dit tu m'as volé ma guitare, mais tu m'as donné l'occasion d'un chant. Et peut-être que cette personne qui vous a volé, ça peut être l'occasion d'une prière pour que cette personne soit touchée par l'Esprit Saint. Cette personne pour laquelle vous n'auriez jamais prié, maintenant vous avez une raison de prier pour elle. Alors on ne demande pas nécessairement d'être maso, et de... mais il doit y avoir quelque part quelque chose que le Seigneur peut utiliser. On verra, parce que les passages suivants sont, les versets suivants sont très importants et méritent qu'on y consacre un peu plus de temps. On va terminer maintenant sur ces quelques exhortations qui doivent décider du fonctionnement d'une église. Et c'est bien qu'au début de cette année, on ait ce respect pour les gens qui cherchent à travailler parmi vous, ceux qui vous enseignent, ceux qui exercent une responsabilité, avoir la paix au milieu de l'Église. C'est un grand sujet de prière. La division, le diable, s'il ne peut pas nous limiter de l'extérieur, s'il ne peut pas nous persécuter de l'extérieur, il sait comment nous diviser de l'intérieur. Nous devons prier pour qu'on soit protégés de telles choses. Et puis, ne cherchez pas à vous venger vous-même.